Classique 21. You rock.
Classique 21, soundtrack avec Laurent Deboeuf.
Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun. Day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, I think it'll be all right.
We'll be right back.
Let's go crazy, c'est la troisième partie de Soundtrack et je vous l'annonçais déjà depuis d'entrée de jeu, donc depuis ce matin, c'est une large spéciale que l'on dédie à Prince aujourd'hui puisque on s'approche du 10e anniversaire de sa disparition. C'était le 21 avril 2016 et donc déjà 10 ans, c'est fou comme le temps passe. Et puis alors, je pense qu'il y avait peut-être pas mieux pour commencer donc cette séquence ici que d'ouvrir avec Let's go crazy parce que c'est un morceau qui est parfait finalement pour débuter une heure. Et puis en plus, c'est cette voix, cette façon de parler comme un révérend. Et puis c'est surtout un extrait, c'est la plage d'ouverture de l'album Purple Rain. Tout cela, on aura bien évidemment l'occasion d'y revenir sur cette séquence que l'on partage avec Dominique Raguet. Bonjour Dominique.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde.
Alors évidemment, Prince, le chanteur, le compositeur, le musicien, le showman, mais n'était-il pas quelque part, avant tout, un metteur en son?
Ah, Joe Cocco, Jamie Starr, Christopher, Love Symbol, l'artiste jadis connu sous le nom de Prince ou Prince tout court. Ben oui, c'est vrai, c'est d'abord une signature musicale unique, hein. Un père, John Nelson, pianiste, compositeur de jazz, une mère chanteuse, le jeune Rogers Nelson est très jeune, hein, plongé dès sa petite enfance, immergé dans la musique, mais ce qui fait peut-être la différence avec d'autres familles de musiciens, c'est que dès son adolescence, en plus de savoir maîtriser plusieurs instruments, il s'intéresse au travail de studio. En plus d'avoir des groupes très jeunes, dès 13 ans, Grand Central, Champagne, il s'amuse très jeune, dès 13-14 ans, à jouer avec les curseurs d'une console, à placer des micros dans une pièce. Le studio est en quelque sorte son terrain de jeu, et cela grâce à un Anglais, Chris Moon, qui habitait Minneapolis et qui possédait un studio pro d'enregistrement. Alors, il n'y a que 5 ans d'écart entre les deux hommes, mais tous les deux étaient passionnés de musique et aussi pas seulement de musique mais de mode et de photographie, ce qui explique par la suite d'ailleurs le côté visuel chez Prince. Et le deal finalement entre ces deux passionnés, entre Moon et Prince, c'était que Moon écrivait des textes et que Prince les mettait en musique et les enregistrait. D'ailleurs, le premier single de Prince qui sort discrètement le 7 juin 1978, c'est Soft and Wet, dont les paroles sont signées Chris Moon et la musique de Prince, titre qui obtient un petit succès et qui sert surtout d'accroche pour la promotion de For You, le premier album du génie de Minneapolis sur lequel on n'y trouve pas encore cette griffe. C'est un disque plutôt, je dirais, soul, pop, avec un son peut-être un peu plus commercial, s'inscrivant dans un style de production presque limite disco à certains égards. Cependant, on peut y déceler l'immense talent déjà. Il compose, il chante et puis surtout, il est son propre producteur. Il joue de tous les instruments et on est seulement en 78, quelques sons de synthétiseur. Mais moi je dirais sur cet album, ce premier album, il manque le petit plus et un tube pour que ce For You soit remarqué. Un disque, c'est vrai, un petit peu oublié, mais sur lequel le jeune Prince prouve qu'il est capable de maîtriser tous les styles de musique. Preuve en est avec le titre qui est d'ailleurs la face B de ce premier single, Soft and Wet. C'est Soul Blue, une ballade plutôt jazzy, tout en nuances. Soul Blue qui fait référence au label Blue Note.
Et alors, avant d'écouter ce morceau, parce que vous avez déjà cité différents de ces acronymes, donc de ces noms, ces surnoms, etc., est-ce qu'on sait à partir de quand il a utilisé le nom de Prince ?
La question piège.
Ouais.
Son deuxième album s'appelle déjà Prince. Enfin, il n'a pas de nom, mais il s'appelle Prince.
C'était déjà prédestiné. Ouais. Bon, on écoute ce morceau, Soul Blue.
No.
So Blue à l'instant et donc dans notre spécial consacré à Prince pour les 10 ans de la disparition donc de cet artiste absolument incroyable. Ce morceau donc ici est extrait de For You, c'est le premier album, hein, vous en parliez, de Prince. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est Prince lui-même qui est le producteur de cet album alors qu'il est vraiment tout jeune.
Oui, incroyable en effet, hein. 20 ans à l'époque, Prince parvient à 20 ans à convaincre le label Warner, donc c'est un gros label, d'avoir le contrôle total sur le disque. Enregistrement, hein. Une partie était fait dans le studio 80 dans Minneapolis et puis à Los Angeles, et puis il joue aussi de tous les instruments, donc il le produit, il joue de tous les instruments, et puis il y a ce morceau Just As Long As We Are Together, le deuxième single qui à ce moment-là se classe plutôt bien, ce qui permet au fond à Prince de réaliser son deuxième album avec toujours le même contrôle. Toutefois, d'autres musiciens sont quand même crédités pour ce deuxième album, comme le bassiste André Simon. Quelques titres se démarquent là sur ce deuxième album, Sexy Dancer, I Wanna Be Your Lover. À ses débuts, je dirais, il s'inscrit dans la lignée plutôt du funk à la James Brown ou voire à la Sly de Family Stone, mais très vite il va, à mon avis, un peu casser les frontières,
hein. Ouais, tout à fait. Alors, deuxième album très funky, mais sur lequel on y entend encore cet héritage, hein, des années 70 dans la production. Mais alors là, il va faire entrer cette musique funk dans les années 80 en brisant complètement les traditions.
Oui, Prince avait à ses débuts une vision assez futuriste, hein, de son œuvre. Il fait entrer effectivement sa musique dans le vortex des années 80. Et il commence avec Dirty Mind, puis vient 1999, et avec ces deux albums, il invente un langage hybride, hein, funk minimaliste, pop synthétique, rock électrique, new wave froid. Il y a quelque chose de très très froid, et une fusion qui va devenir au fond sa marque, une griffe sonore qui en ce début des 80s s'accompagne aussi d'une attitude un petit peu sulfureuse, à l'image par exemple de son album Dirty Mind.
Oui, Dirty Mind, on va écouter le morceau et puis je peux déjà vous annoncer qu'après on aura un petit peu quelque chose d'exclusif à vous proposer. Voici Dirty Mind. Prince à l'instant avec Dirty Mind, donc plage titulaire de son troisième album sorti en 1981, qui marque aussi donc cette période de transition entre les années 70 et les années 80. Et puis alors, cette petite chose exclusive dont je vous parlais juste avant, nous y venons. En fait, il s'agit d'une interview, un petit bout d'interview du producteur Chris Van der Heyden, qui a, figurez-vous, acquis la première console AMEC de Prince, donc qui se trouvait à Paisley Park. Il y a, sachez d'ailleurs, un article aussi qui parle de cela, que vous pouvez retrouver sur le lien RTBF Actu. Et donc, Chris Van der Heyden nous explique un petit peu comment Prince était au quotidien.
Prince, c'était un gars qui avait beaucoup de chance, parce que chaque matin, quand il se levait, c'était un autre personnage, quoi. Et donc, du coup, on ne savait pas très bien où on l'avait. Parfois, il ne parlait pas pendant 8 jours, et puis parfois, on le croisait. Il ne faut pas oublier, Paisley Park, c'est une usine, et aussi, ce qu'il faut tenir en compte, c'est que 90% des gens qui travaillaient là, ils ne parlaient pas avec. Donc, c'est assez spécial. On dit, comment c'est possible? Oui, c'est possible. Parfois, ils couraient pour ne pas devoir parler avec des gens parce que, ils n'en avaient pas envie. Moi, je trouve qu'il était très pro. Il était aussi très blagueur. Il était très funny.
Voilà, donc c'est assez épatant de pouvoir entendre ça. Et on y retrouve un petit peu le personnage assez particulier que Prince pouvait être. Donc c'est-à-dire que du jour au lendemain, il pouvait vous prendre dans ses bras et puis rester parfois pendant des heures sans vous parler. Mais je pense qu'il y a d'autres artistes comme ça. On en avait parlé d'ailleurs hors antenne.
Oui.
Alain Bachung,
Tom
je crois.
Alain Bachung, Tom York sont des gens aussi qui restaient pendant des heures sans parler.
Alors,
musiciens sont dans leur bulle. Et d'ailleurs, les membres de Radiohead racontent que parfois en studio, ils se demandent quelle humeur aller entrer en studio Tom York si aujourd'hui ils allaient pouvoir travailler, ou ça va être une journée finalement où il n'y a rien qui va sortir parce qu'il est dans son monde, il est en train de réfléchir.
Voilà, tout à fait. En tout cas, c'est une fierté aussi pour nous à Classic 21 d'avoir pu avoir cette interview. Et puis cocorico quand même, puisque c'est un Belge qui a récupéré la console de ce studio de Paisley Park. Alors, Dirty Mind en 1981, Prince n'est pas encore l'immense star de Purple Rain, ça va arriver bien entendu. Le succès ne vient que progresser avec Controversy et surtout 1999. Là, c'est l'époque, donc on va dire que l'époque Dirty Mind, il intrigue, et pas forcément pour sa musique aussi.
On va revenir un instant sur Dirty Mind. Quand il vient le présenter, par exemple, sur la scène du Palace à Paris, c'est le flop total. La salle est à moitié vide et les curieux qui sont venus voir ce nouveau phénomène funk découvrent un gars habillé en barésie, tenue jartelle, sous un imperméable. Alors, Prince n'est pas seulement un musicien. C'est une figure. Dès ses débuts, il joue avec les codes. Sexualité ambiguë, talons hauts, dentelles, regard provoquant, il brouille les genres, dérange, fascine. Sur scène, comme il va le faire d'ailleurs dans ses clips, il impose une esthétique assez audacieuse, voire parfois, je dirais quand même, assez théâtrale. Et c'est finalement assez naturellement que le cinéma est un prolongement de cet univers, avec bien sûr Purple Rain, qui à l'origine devait avoir dans son casting comme rôle principal John Travolta.
Oui, c'est lui avec Prince.
Ouais, voilà. Mais là encore, contrôle et exigence de Prince, qui pourra avoir finalement le premier rôle. Et c'est vrai qu'il y a dans ce film un véritable manifeste visuel avec tout l'univers du Kid, y compris sa troupe, puisqu'on y retrouve Time, Apollonia, Purple Rain, là qui est un triomphe à l'époque en salle et en vidéoclub par la suite. Alors c'est un triomphe d'un point de vue discographique. D'ailleurs, à Eric Clapton, on lui avait demandé lors d'une interview s'il devait emporter un seul disque sur une île déserte, ce serait lequel? Et Clapton avait répondu Purple Rain, car on y trouve de tout, du rock, du funk, de la pop, et c'est magistralement interprété. Il existe d'ailleurs des enregistrements de Clapton exécutant ce Purple Rain. Et c'est vrai que le succès de Purple Rain a conforté Prince dans son exploration du visuel et du cinéma, avec ensuite Under the Cherry Moon, ça a été un bide.
Oui.
Puis il y a eu Graffiti Bridge, qui est la suite un petit peu de Purple Rain. Là aussi, c'est un bide, mais avec une bande son assez intéressante quand même, parce que très urbaine, sur laquelle on trouve quand même une collaboration historique Prince et George Clinton.
Le maître
de cérémonie du P-Funk et grand prêtre du funkadelic. Et puis, pour les amoureux du cinéma, on retrouve aussi la trace de Prince dans quelques autres productions. Notamment, il signe une chanson pour le dessin animé Happy Feet. Souvenez-vous que les petits pingouins sur la banquise. Et puis, on a surtout la BO culte du Batman. Batman de Tim Burton. Et ce n'est pas un hasard hein, si Prince s'amuse avec le thème de la série des 60s de Batman. Hein.
Effectivement, parce que les premières notes que donc le petit Roger Nelson avait appris à jouer au piano, c'était le fameux ta-da-da-da-da-da-da-da-da. Donc qui était le thème de la série Batman dans les années 60. Et c'est Tim Burton donc, qui avait approché Prince pour lui demander de faire un morceau pour la bande originale. Et comme on le sait, Prince était quelqu'un d'hyper productif, si bien que c'était pas un morceau, c'est un album complet qu'il avait fait. Et c'est aussi une insistance, c'était un souhait particulier de Jack Nicholson d'avoir Prince sur la bande originale, parce que ben, Jack Nicholson, déjà grand amateur de musique, mais était aussi, enfin, surtout encore un grand fan de Prince. Donc on va se replonger avec un extrait, justement, c'est pour ceux qui se souviennent du film, c'est lorsque le Joker et ses acolytes viennent mettre un petit peu le bazar dans un musée en détruisant toutes les œuvres, et le morceau qui passe à ce moment-là, c'est celui-ci, ça s'appelle Party Time.
Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence.
Party Time, extrait donc de la bande originale du film de Batman en 1989, et il y avait bah, d'autres titres à retrouver, notamment, il y a un morceau qui est plus guitare, hein, je me souviens, qui s'appelle Electric Chair. Bon, il y a un petit peu tout encore une fois, et puis il y avait ce fameux Bad Dance.
Oui, c'est ça, mais qui a un détournement en fait de la, du thème principal des années 60. Hein.
Tout à fait, effectivement. Alors Prince, dans les années 80, c'est aussi un producteur avec plus ou moins de succès.
Oui, et il cartonne indirectement avec, bah, évidemment, les Bangles, avec Manic Monday, Bray, et puis il a ses groupes aussi en marge, Sheila E. évidemment, ouais. Wendy Elisa, Jill Jones par la suite, Vanity Six, un trio féminin en dentelle super sexy dont une des chanteuses était la femme de son responsable lumière durant ses tournées, et puis il y a le groupe Time. Au milieu des 80s, on peut parler vraiment, je pense, d'une écurie Prince, d'une troupe qui vit dans son studio là-bas à Paisley Park, et c'est l'époque aussi de Revolution qu'il finit d'ailleurs par dissoudre, et arrive l'année 1987, année où il publie l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre, c'est l'album Sign of Time, album sur lequel on n'y trouve pas justement son groupe The Revolution. C'est un album signé entièrement par Prince.
Classic 21, Soundtrack, avec Laurent Deboeuf.
Chance's girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby cause she couldn't afford to feed, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June.
Sign of the Time à l'instant, donc la plage titulaire de ce double album entièrement réalisé par Prince. Fini les Revolution, par la suite ce sera New Power Generation, mais alors double album, mais il y a aussi eu un film.
Oui, alors si Prince n'a jamais en tout cas vraiment été pris au sérieux comme comédien, par contre le film Sign of Time nous montre le Prince bête de scène, un film concert dont certaines images à l'origine avaient été captées lors de son passage en Belgique au Sport Palace d'Anvers, images qui finalement ne se retrouvent pas au montage, toujours ce contrôle absolu et souvent aussi chez Prince ce bras de fer avec son label.
Ah oui, tout à fait. Ce label dont il s'est un petit peu senti prisonnier, donc c'est pas peu dire. Il y avait ce geste radical aussi dans les années 90 où il abandonne son nom pour devenir un symbole imprononçable.
Oui, un acte artistique, mais aussi politique, en conflit avec son label Warner Bros. Records. Il dénonce l'industrie à ce moment-là, de l'industrie musicale, se présente comme un esclave contractuel, écrit même à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, Slave sur sa joue. Mmh. Et là, c'est vrai qu'il multiplie un petit peu les sorties indépendantes. hein, Prince revendique une chose essentielle, et d'ailleurs ça va faire des petits comme on dit, c'est la liberté de créer sans compromis.
Alors oui, les années 90, époque de la publication du Black Album, album secret enregistré en 1987 et qui maintient le statut de star à constamment surprendre son public.
Oui, et dans les années 90, il chante d'ailleurs « My name is Prince ouais. » et il surfe sur la vague rap hein, avec notamment « Get Off ». Il continue de choquer avec des paroles plutôt osées. Hein. Pour rappel, le fameux sticker des années 90, « Explicit Lyric » a été imposé à cause d'une chanson de Prince, hein, ouais. pour mémoire. Et quand je dis « osé », on a par exemple « Sexy MF », hein, ouais. pas dire « Motherfucker ouais. » ou encore « Cream ». Écoutez les paroles de « Cream », c'est quand même très 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 chaud. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs Prince d'écrire de jolies ballades qui sont de vraies déclarations d'amour, comme par exemple ce titre, ce single qui était sorti un petit peu à l'écart, The Most Beautiful Girl in the World.
Beautiful Girl in the World, titre tout en douceur, qui montre une des nombreuses facettes aussi de l'artiste.
Prince, hein, capable de provoquer en composant une ode à la masturbation, à parler de différentes formes de sexualité, mais toujours avec un immense respect pour la femme. Hein. Dans son répertoire, il n'y a aucune trace de machisme. La femme n'est jamais considérée dans son répertoire comme un objet.
Elle est magnifiée.
Oui, c'est ça. Mmh. Et quand on écoute bien certaines de ses chansons, on découvre quelqu'un au fond, je dirais, de très très timide.
Oui, effectivement. Et ça, Je le confirme avec une anecdote personnelle, parce qu'il faut savoir que Prince, bah pour moi, c'est une histoire qui a commencé à l'adolescence, même prépubère, hein, j'avais 12 ans. C'est vous dire, j'avais pas de bouton, heureusement. Mais bon.
Avec Purple Rain?
Non, oui, avec Purple Rain. Ça, c'était la découverte avec un ami, un copain de classe. Et puis, quelques années plus tard, j'avais commencé mes humanités en cuisine. Donc, j'étais en hôtellerie et mon papa m'avait placé pendant les vacances dans un hôtel qui se trouve derrière le Botanique à Bruxelles. À l'époque, c'était le Hyatt Regency. Et donc, j'y étais en 1986. J'avais 14 ans et c'est là que Prince était descendu. C'était la tournée de l'album Christopher Tracy's Parade, donc cet album blanc et noir où on le voit avec ses mains, etc. Et donc, évidemment, effervescence, sachant que Prince allait arriver dans l'hôtel. Moi, je tenais plus en place. Et donc, lorsqu'il est arrivé dans l'hôtel, j'étais avec une femme de chambre, je m'entendais bien avec les femmes de chambre, et on s'était mis dans l'encoignure d'une porte pour le regarder traverser le hall de l'hôtel, ce qu'il a fait d'une manière assez timide, justement. Bien qu'il ait une prestance assez incroyable, hein, parce qu'il rayonnait, hein, donc c'est quelqu'un qui avait un charisme énorme. Il est rentré dans l'hôtel, il était habillé, je me souviens très très bien, il avait un costume en satin vert avec une chemise noire, une cravate blanche et un long manteau moucheté en laine noir et blanc et des bottillons en daim vert avec évidemment toujours ses talons. Faut savoir que Prince était petit, hein, sa taille était 1m58, donc les talons étaient souvent là pour compenser sa petitesse. Et donc ça c'est la première anecdote, mais évidemment je n'en suis pas resté là parce que mon but c'était quand même de pouvoir le rencontrer aussi. J'avais saoulé le chef de cuisine, j'avais saoulé le chef de salle pour savoir quand est-ce que j'allais pouvoir le voir, et à un moment donné on me prévient, on m'a dit voilà, on lui a demandé, il est d'accord. Oh. Donc, on m'a fait changer de veste, mettre une veste propre quand même pour présenter. Il était en train de déjeuner avec son manager et je suis arrivé avec un sac. Il y avait l'album qui était dedans, donc en vinyle, que j'ai toujours. Et puis, il y avait quelques goodies, il y avait des cartes postales, il y avait des posters, etc., etc. Je me suis retrouvé face à Prince. Je me souviens de quelqu'un, mais de très timide, c'est-à-dire qu'il ne soutenait pas mon regard. À chaque fois que moi je le regardais, il baissait les yeux. Il n'y a pas eu un sourire, il n'y a pas eu quoi que ce soit. Moi je lui ai donné dans un pauvre anglais, je lui ai dit voilà, congratulations, machin, etc. Il a fait un merci, mais très très rapide. Et je lui ai demandé s'il était d'accord de signer. Je lui ai tendu l'album, il a signé, il a marqué Love God Prince dessus. Et puis je lui ai tendu un poster, et là il a refusé. Il a dit non, c'est tout, voilà, il a juste signé ça. Mais quel souvenir! Voilà.
Donc vous avez un album dédicacé de Prince.
J'ai un album dédicacé de Prince que d'ailleurs vous avez pu voir certainement en photo sur Facebook puisque je l'ai publié, donc voilà. Mais alors ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que Prince était un guitariste incroyable à l'époque. Moi j'avais déjà fait un Guitar Story sur lui. Alors il y a évidemment toute la période Telecaster, mais ça n'est pas une vraie Telecaster. Cette guitare qu'il a accompagnée toute sa vie, avec laquelle il a aussi joué le solo de Why My Guitar Gently Weeps avec Jeff Lynne, avec Tom Petty, etc., etc. C'était une copie. C'était un modèle très très proche, c'est une HS Anderson Mad Cat, et cette marque a fabriqué cette guitare dans les années 70 avec un tout petit succès. Elle a dû interrompre la production suite à évidemment des différends avec Fender, hein, l'ancienne OF, qui lui reprochait justement d'être trop proche de la Telecaster. Mais alors ce que on retient, c'est surtout la Cloud Guitar, donc cette guitare qui apparaît dans le film Purple Rain. Donc ça, le monde l'a aperçu pour la première fois c'est dès les premières 20 minutes du film en 1984. Et donc le personnage de le kid, c'est une rencontre romantique finalement, parce que ça se déroule dans un centre commercial. Et Prince, donc The Kid, s'arrête rêveur devant une vitrine pour contempler cette guitare blanche aux courbes élégantes et originales, parce qu'on connaissait pas de modèle semblable à ça. Elle est enchaînée au corps noir et anguleux d'un mannequin, et c'est Apollonia, hein, donc le personnage d'Apollonia, qui lui dit « Est-ce que tu vois quelque chose qui te plaît ?» Il ne répond pas, mais son regard en dit long. Et comme dirait Mike Myers, c'est un petit peu d'ailleurs un clin d'œil qu'il avait fait dans Wayne's World, « Un jour, elle sera mienne. » Voilà. Et puis bon, c'est Apollonia dans le film qui lui offre. Alors, celle qui apparaît dans le film a été fabriquée spécialement pour Prince par le luthier Dave Russen dans l'atelier de Note Coupée Music. C'est un magasin qui se trouvait dans le quartier Uptown de Minneapolis. Je ne pense pas que ce quartier existe toujours. Et il est basé, en fait, sur le croquis d'une basse d'occasion de la marque Sardonyx que Prince avait acheté au début de sa carrière et qui avait été utilisé par André Anderson, qui, ça c'était un copain, ils se sont connus en 5e, ils ont commencé à faire de la musique ensemble. Mais alors, savez-vous, mon cher Dominique, quelle autre grande star de la musique a joué aussi sur un modèle de Sardonyx?
Ne me dites pas Clapton quand même.
Non, pas du tout. John Lennon. Eh bien, John Lennon, dans l'enregistrement de son dernier album, donc en 1980, il a utilisé une guitare de cette marque, mais qui est un modèle très futuriste. Quand on la regarde, ça ressemble un petit peu à une luge. C'est assez particulier. C'est une guitare avec des bras en métaux. Et en fait, quand on reprend cette basse, ben on y retrouve tout à fait la forme de la cloud guitar. Et ces formes, eh ben en fait, elles sont très très anciennes parce que ce sont tout simplement les formes d'une mandoline. Si vous prenez une mandoline, vous regardez la mandoline, c'est le même design. Voilà, c'est les mêmes volumes qu'on y retrouve.
Un design très féminin. Et est exposée où cette guitare aujourd'hui, on sait ? Rock'n'Roll of Fame ou...
Ça c'est une bonne question, parce qu'en plus, est-ce que c'est la vraie? On ne sait pas. Prince en avait plusieurs, il en avait des blanches, des mauves, des bleus, des jaunes, donc je ne peux pas être précis là-dessus, je ne vais pas vous raconter des bêtises. Ouais. À mon avis c'est à Minneapolis, je pense, à Paisley Park, certainement. Ouais. Voilà, bah écoutez mon cher Dominique, je pense qu'on va refermer tout doucement, non sans écouter Purple Rain, bien entendu, on va écouter une version live. Peut-être quelque chose à rajouter ? Oui.
Bah oui, parce que Prince était, je dirais, l'homme du studio obsessionnel. Hein. On a dit Paisley Park, son propre complexe. Il enregistre jour et nuit des centaines de morceaux, parfois gardés dans le fameux Vault, ce coffre mythique. Et il contient encore énormément de choses, bien qu'on n'a pas beaucoup dévoilé de titres posthumes, en quelque sorte. Hein. C'est encore assez rare. Et puis surtout, pour moi, c'est celui qui a fait le pont entre la culture afro-américaine et la culture des Blancs, puisque dans sa musique, il est capable, et même sur scène, d'enchaîner funk, rock, soul, et même d'improviser une grille complètement jazz.
Oui, tout à fait, absolument. C'était aussi un très très bon guitariste de jazz. On pourrait encore en parler pendant des heures, surtout vu qu'on est quand même tous les deux des passionnés par le personnage. Il y avait aussi son dernier projet, Don't Like Girls,
qui était... Et puis moi, j'ai un souvenir de l'avoir vu à Werther, entre autres, où en quelques secondes, il a changé de morceau parce qu'il commençait à pleuvoir. C'est tout de même... C'est le truc le plus dingue que j'ai vu. J'ai vu quand même pas mal de concert dans ma vie, mais à ce moment-là, je connais quand même le répertoire de Prince, il commence à jouer un morceau, et il y a 2-3 gouttes qui se mettent à tomber sur Werther, et en un quart de seconde, il se tourne vers ses musiciens, qui sont à l'affût, et hop, il change, et il enchaîne sur l'accord de Purple Rain, pour que, évidemment, Purple Rain soit joué sous la pluie, avec un éclairage mauve, évidemment.
Ah bah oui, effectivement. On va l'écouter dans un instant, ce morceau, et puis se dire au revoir aussi. Merci beaucoup Dominique, et à bientôt.
Et à tout bientôt.
Classique 21, Soundtrack, avec Laurent Deboeuf.
Et l'intro de cette version live de Purple Rain, j'ai pas trop bavardé pour pas trop manger dessus, hein, mais voilà, donc il y aura encore pas mal de choses à dire, et notamment ce 21 avril, jour précis du 10e anniversaire de la disparition de Prince. Il y aura donc un moment M qui sera étendu, consacré à cela, et puis Dominique Raguet reviendra également sur cette disparition avec Time Machine. BJ Scott est déjà là. Elle sera avec vous dans un instant pour son BJ Sunday Brunch. Et donc, je vous laisse avec cette version de Purple Rain. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un très très bon dimanche à l'écoute de Classique 21.
Things befall us all sometimes. everybody.
Purple rain, purple rain, I saw the ride tonight. Yeah, purple rain,
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.